Okay. Alors bonsoir à tous, merci d'être là. Nous accueillons ce soir au lundi d'Olivieri Louise Dupré.
Bonsoir,
bonsoir Louise.
Elisabeth.
Poète, auteur d'une douzaine de recueils depuis La peau familière en 1983 jusqu'à Tout près, romancière, La Memoria parée en 96, La Voie lactée en 2001, auteur de nouvelles, L'été funambule paru en 2008 et de textes de théâtre, tout comme elle. Mise en scène par Brigitte Henkens, critique littéraire, l'une des premières au Québec à avoir proposé une lecture au féminin des textes littéraires, notamment dans Stratégie du vertige, Trois poètes, Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, France Théorie en 89, et plus près de nous en 2002, Sexuation, espace écriture, la littérature québécoise en transformation, qu'elle a co-dirigée. L'œuvre de Louise Dupré a été en partie traduite en anglais, récompensée par de nombreux prix littéraires. Elle est membre de l'Académie des Lettres du Québec. On lui a plusieurs fois rendu hommage. Entre autres, je signale une vidéo de Jean-Pierre Mas avec un entretien conduit par Stéphane Lépine intitulé « Vivante » en 2002. En 2008, une première monographie critique est consacrée à son œuvre par Anne-Marie Jézéquel de l'Université de Cincinnati. Son livre, intitulé « Louise Dupré, le Québec au féminin » sera lancé tout à l'heure, après l'entretien. Donc, restez avec nous, on continuera à parler de Louise d'une autre manière. Donc, depuis 1983, date de publication de son premier recueil, et aussi de la publication d'une création collective présentée quelques années plus tôt, « Si Cendrillon pouvait mourir » jusqu'à aujourd'hui, l'itinéraire de Louise Dupré croise quelques-uns des mouvements les plus importants qui définissent la littérature québécoise contemporaine. Elle appartient, quoique avec sa distance propre à ses débuts, au mouvement formaliste réuni autour de la Barre du Jour. Très vite, ses poèmes donnent à entendre une voix de femme, en même temps qu'elle relie, dans les deux sens, de relire et de relier, les textes des écrivaines féministes des années 70 dans son travail critique. Louise Dupré, comme Denise Desautels, comme Anne-Marie Alonso, comme beaucoup d'autres, appartient à une seconde génération de l'écriture femme qui recentre l'écriture sur l'élaboration d'une subjectivité féminine. À cette subjectivité, Louise Dupré donne très vite une tonalité intimiste qui rend son œuvre exemplaire de ce tournant ou de ce courant si caractéristique de la littérature québécoise contemporaine. L'extrême cohérence entre les poèmes, les romans, les nouvelles, les textes de théâtre tient, je crois, à cette voix discrète, retenue, se refusant à toute grandiloquence et aussi, me semble-t-il, à cet effort constant pour atteindre au plus concret, au plus palpable. Pour définir la voix de Louise, la critique a souvent eu recours à l'oxymore. C'est aussi ce qu'on a essayé de faire en citant dans le titre de cette rencontre un des poèmes de Louise et ce syntagme qui nous plaisait beaucoup, l'espoir inquiet qui fait les livres. Pour Stéphane Lépine, il s'agit d'une œuvre qui transmet à mots couverts le frémissement. Pierre Neveu parle d'une écriture tranquillement batailleuse, d'une poésie de la durée patiente, d'une lucidité un peu effrayée qui porte dignement le temps. Et pour ajouter mon grain de sel, je citerai une phrase du dernier roman d'Yvon Rivard, qui, je trouve, s'applique bien à l'écriture de Louise et dont le but serait de raccommoder les trous que la peur de mourir fait dans la vie. Comme d'habitude, nous allons commencer par des lectures. Alors, j'ai demandé à Louise de penser à quelques poèmes et à une nouvelle. Donc, on va commencer par l'entendre, cette voix, et ensuite, on discutera, toi et moi, et on passera la parole au public.
Merci beaucoup, Elisabeth. Je tiens particulièrement à remercier le CRIL de cette invitation qui me touche énormément. Alors, je vais commencer par trois poèmes tirés de Tout près, des poèmes que j'ai lus très rarement et qui, je crois, rendent compte d'un aspect de mon travail. Mémoire. Ta maison en deuil, ainsi que tu la vois la nuit, avec ses poutres qui grincent sous le poids des corps. Qu'attends-tu au juste de tes veilles, sinon une place dans les rues, parmi des mendiants qui ressemblent à ton père? Sans doute veux-tu te convaincre que ton destin est ailleurs, dans la chaleur d'une chambre où à côté de toi dormirait un homme qui ne connaîtrait pas l'insomnie. Tu guettes la peur pour la mettre en lambeaux le moment venu, quand elle sera assez près pour te paraître insupportable. Elle n'est pas une, ta vérité. Elle s'en mêle dans des fils inextricables qui te mènent là où tu ne t'y attendais pas. Près d'un parc aux trois fontaines, envahi par des chiens errants, parfois même jusqu'à la tranquillité des petites croix plantées dans le sommeil de tes absents. Tu parles alors, mais en pure perte. Ta prière, tu le sais bien, ne peut réanimer les cimetières. Tu t'adresses à des ombres pour qui tu n'existes pas. Tu recueilles dans ta gorge déserte les mots mal arrimés au réel de ta chair. Tu étais chair bien avant d'être langue, et tu n'as jamais douté de la musique qui s'installe en toi pour recouvrir le noir de ta chambre. Car ta bouche ne sait pas la défaite. Elle vibre à ce que tu as dû tant de fois sacrifier. Elle cherche un caillou, une grâce, un rouge qui tient encore aux lèvres ses pauvres frivolités, amenant le silence du côté lisse de la nuit. Et une nouvelle que j'aime tout particulièrement parce que je crois que c'est une nouvelle qui porte tout mon parcours. Une bouteille à la mer. Vous avancez dans le noir de vos yeux fermés. Vous ne savez pas où vous mènera le chemin. Depuis que votre mère est morte, vous suivez une route sans lumière. Votre mère est morte, vous le dites, mais elle est bien vivante encore. Vous le dites pour vous habituer, pour savoir le dire quand ce sera le moment. C'est peut-être une trahison, mais malgré tout, vous le dites. Votre mère est morte. Vous voudriez que ce soit comme sa mère à elle, sans agonie. Un après-midi comme les autres, les intestins tout à coup se vident. On appelle. On a honte d'avoir souillé les draps blancs. Et puis on meurt, dans la honte des matières sales. Votre mère est là. Vous êtes là. Seules toutes les trois. Votre grand-mère, avec sa honte des intestins qui se vide, votre mère et vous. Juste avant la mort, les intestins, a murmuré votre mère. Voilà ce que vous avez retenu de cette mort-là. Le corps qui, une dernière fois, fait son travail. Vous n'avez pas vu votre mort à vous. Cela, les adolescentes ne peuvent pas le voir. Ni héroïque, ni désespérée, la mort des femmes de votre sang. Elles ne vont pas à la guerre, ne se suicident pas. Une mort banale qu'on ose à peine écrire, comme la vie sans fracas. Les années qui se suivent, les enfants, la nourriture tous les jours, les vêtements qu'on coud à la lumière des lampes, plus tard, les petits-enfants. Puis un jour, le fil se casse, on ne l'a pas vu peu à peu s'effilocher. Aveuglément, c'est peut-être ainsi qu'il faut avancer, vous ne faites pas autrement. Mais vous exagérez, elle voit votre mère, elle a peur souvent. La peur de ne pas achever de s'éteindre, de s'éterniser dans une vie de morte vivante. On ne peut pas savoir de quelle manière on finira. Elle l'avoue en chuchotant, tard le soir, quand, dans l'immeuble où elle demeure, le temps est arrêté. Elle l'avoue, et vous cherchez des mots qui pourraient la rassurer, mais vous ne trouvez pas. Alors, vous vous taisez, vous écoutez. Vous vous taisez. Vous vous êtes toujours tu devant elle. Vous avez beau vous asseoir bien droite sur votre chaise, ouvrir la bouche, les mots s'agglutinent dans votre gorge, ils vous empêchent parfois de respirer, et vous ne pouvez que répéter des phrases usées. Devant elle, vous êtes encore l'écolière qui lui rapportait de beaux bulletins pour la voir sourire à la fin du mois. Vous étiez la petite fille parfaite et vous reprenez votre rôle chaque fois que vous lui rendez visite. Vos sœurs aussi, à défaut d'une vie facile, elle aura eu de bons enfants. Elle aura été ce qu'on appelle une bonne mère, l'amour, les soins, la joie dans la maison, les devoirs, puis les leçons après la classe, et les livres de contes qu'elle vous lisait le soir en vous mettant au lit, et les reproductions de tableaux qu'elle sortait doucement de leur pochette les dimanches d'automne quand il pleuvait. Elle vous aura appris le nom de Renoir, de Cézanne, de Degas et de Monet bien avant le collège. Vous lui en êtes reconnaissante, vous le dites maintenant sans rancœur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes jamais arrivé à parler avec elle que vous ne pouvez pas l'apprécier. Parler, dire quelle femme vous êtes devenue au fil des ans, vous avez essayé. Mais vous vous êtes buté à un mur de silence. Un jour, vous avez commencé à penser que, du fond de sa vie rangée, votre mère ne pouvait pas vous entendre, vous, avec vos emportements. Elle avait peur de vous, comme maintenant de la mort. Bien sûr, il a fallu finir par comprendre, mais encore vous rêvez que votre mère vous parle comme à une femme. Vous vous essayez devant elle vous regarde en souriant, elle vous demande « Comment vas-tu ?» Et vous commencez à lui parler avec une voix vraie. Mais vous revenez bientôt à la réalité. Petit à petit, on se rend à l'évidence. On ne peut changer personne, encore moins sa mère. Vous vous souvenez à quel moment précis vous avez renoncé. Un matin de neige, vous aviez décidé de lui parler de votre tante. Vous avez employé le mot « folle » pour mettre des mots sur le passé. Mais vite, votre mère a nié. Elle est revenue à ses vieilles conversations, la maison, les voisines, les emplettes de la semaine. Elle vous avait bien entendu pourtant, de cela vous êtes certaine, mais elle a refusé d'ouvrir la brèche que, pendant une fraction de seconde, vous avez aperçue dans ses yeux. Vous dites « brèche », mais ce mot est-il capable de nommer ce que jusque-là elle avait réussi à vous cacher? Depuis, vous savez cela, il y a une tache aveugle, un trou au milieu de sa vie, un gouffre qui la menace aussitôt qu'elle s'en approche. Alors, elle le contourne, elle l'entoure, elle fait toute chose comme elle doit être faite, elle dit « il ne faut pas s'écouter ». Elle aura passé sa vie à ne pas s'écouter. Mais comment auriez-vous agi, vous, si un jour l'une de vos sœurs était devenue folle sans qu'on sache la soigner? Les psychiatres, les électrochocs, les médicaments et vos grands-parents qui n'arrivaient plus à s'occuper de votre tante, vous vous souvenez de cette conversation à voix basse lorsque vous étiez enfant? Vous vous souvenez que vous restiez bien sage en vous demandant si un jour, vous aussi, vous seriez interné? Et la peur sourde qui vous faisait venir le sang aux tempes. Peur, 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 décidément, c'est ce que sans cesse vous ramène le passé. Votre mère aussi, sans doute, elle aura traversé sa vie en mettant doucement les pieds l'un devant l'autre pour ne pas tomber. Vous auriez souhaité qu'elle puisse vous apprendre à courir ou à valser, mais c'est seul que vous avez esquissé vos premiers pas de danse. Plus jeune, vous lui en avez voulu, ne le niez pas, même quand il vous arrivait d'espérer. Vous vous voyez marcher bras dessus, bras dessous, toutes les deux, vous alliez au restaurant ou au théâtre. Avec elle, vous aviez ce plaisir qu'on a au moment des belles confidences. Un jour, vous avez vu qu'elle était devenue vieille, et vous avez renoncé, vous avez repris votre rôle de fille aimante. Entre vous, il n'y a pas eu de paroles, mais des tas de gestes. les pots de confiture l'automne, les bas tricotés l'hiver, les blouses raccommodées près de la fenêtre. On peut aimer sans savoir parler. Votre mère vous aime, oui, vous aime comme une petite fille, mais non comme la femme qu'elle ne peut plus protéger. Cette femme-là lui échappe, elle ne veut en connaître ni la force ni les fragilités. Alors, elle ramène à elle, dans une bulle depuis longtemps crevée, l'enfant rousse aux yeux roux, et elle vous raconte des anecdotes 100 fois racontées. Pour masquer l'ennui, vous écoutez en guettant le moindre mot sous les mots, celui qui révélerait l'énigme de votre mère. Un jour, son ventre rendra ses dernières matières. Vous espérez être là, à côté, comme elle avec sa mère. Vous la nettoierez. Vous ferez les gestes qu'elle faisait tous les jours avant que vous appreniez à parler. Vous direz à votre fille, juste avant la mort, les intestins, en pensant à votre mort à vous. Comment réagirez-vous? La question vous vient parfois quand vous sortez de chez elle. Vous avez fait le deuil de sa parole, du moins il vous semble, mais au moment où votre mère fermera les yeux, vous éprouverez peut-être un immense regret. Le corps familier que vous recouvrirez d'un drap blanc sera resté jusqu'au bout celui du mystère. Vous vous reprocherez de ne pas avoir su faire surgir les confidences. Est-ce pour cette raison que vous écrivez comme ces femmes dont vous ouvrez délicatement les livres le soir avant le sommeil? Muettes comme vous devant leur mère, c'est ainsi que vous les imaginez. Certaines viennent de pays que vous avez déjà traversés, d'autres de régions où vous ne vous rendrez jamais. Mais elles sont là, tout près, sous la lampe. Elles laissent venir à vous leurs mots de colère, de compassion ou de bonheur parfois. Elles vous font confiance. Elles ne doutent pas de votre accueil. Le beau miracle des livres, une bouteille jetée à la mer, qu'une autre femme recueillera un jour, du moins vous le souhaitez. Vous aurez trouvé les mots qu'elle n'avait pas appris à prononcer. Son cœur recommencera à battre dans sa poitrine. Elle prendra la plume, noircira des pages et des pages. Mais vous ne le saurez sans doute jamais, puisque jamais vous ne la connaîtrez. Merci.
Alors, on vient d'entendre des choses fort différentes, la nouvelle, des poèmes. Ma première question, Louise, ça serait peut-être sur ces formes-là, sur ces changements de forme. Comment tu distribues, toi, dans ton travail, poèmes, poèmes en prose, romans, nouvelles? Comment tu navigues entre ces formes-là?
Disons que dans les genres narratifs, je pars souvent d'une idée, d'une anecdote, d'une image. Et cette idée-là prend forme. Dans une bouteille à la mer, c'est vraiment cette image-là de la grand-mère qui va mourir et dont les intestins rendent les dernières matières. Et je tisse toute la nouvelle à partir de ça. Dans les poèmes, je dirais que je pars d'un grand vide, du grand rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, il n'y a que du silence, il n'y a qu'un trou. Et à partir du trou, les mots viennent. Je ne sais jamais ce que ce sera. Et en ce sens-là, je dirais que la poésie a ça d'inquiétant qu'il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet de trapéziste. Ce qui fait que la poésie que j'écris est sans doute plus noire que mes textes de prose, parce que rien ne la retient. Et tout la fait sombrer au fond de quoi, je ne sais pas, mais au fond de ce qui cherche à se dire sans arriver à se dire. Et je dirais que la poésie est chez moi un travail vraiment dans le noir, dans tous les sens du mot noir, dans l'inconscient, mais aussi vraiment dans la mort, dans le désespoir et dans tout ce qu'il y a là, de moins lumineux. J'essaie ensuite de faire venir la lumière, mais ça demande toujours un effort. Alors que dans les textes de prose, et surtout dans l'été funambule, il y a des moments presque amusés où la narratrice regarde le monde et sourit. Il y a des sourires dans la prose. Et je crois que ça correspond à deux attitudes que j'ai, deux postures, des moments différents de ma vie aussi.
C'est vrai qu'il y a des choses drôles dans l'été funambule. Il y a une nouvelle, par exemple, All Inclusive, qui est extrêmement drôle, satirique. Mais le roman, alors, qui, dans la Memoria, dans la Voie lactée, où il y a à la fois des moments très sombres, très noirs. Bon, dans la Voie lactée, par exemple, ce suicide auquel la narratrice a assisté, dont elle craint la réédition. Dans la Memoria, ce qui s'est passé dans la maison et qu'elle va finir par apprendre. Il y a aussi des moments très très sombres. Alors comment le roman qui est de longue durée, comment tu fais avec ces moments-là?
Je dirais que le roman essaie d'apprivoiser le noir davantage. C'est-à-dire, c'est clair, je pense qu'effectivement les romans partent toujours de moments très noirs, mais essaie d'apprendre à vivre avec le noir et non pas d'y sombrer comme la poésie. Et dans les Memoria, c'est ça, c'est un texte qui part justement d'un suicide, d'une séparation, donc des éléments extrêmement sombres, mais la narratrice arrive quand même à émerger de cette douleur-là, de ces douleurs-là, et pour se construire. Dans la Voie lactée, c'est un peu différent. Je dirais que ce suicide-là qui arrive est le révélateur de ce qu'elle pourrait faire. Et que voyant cette autre femme-là qui se jette du balcon, il se produit une sorte d'identification qui fait en sorte que la narratrice se fâche, parce que c'est une voie de la colère dans la Voie lactée, et qu'elle décide de changer quelque chose dans sa vie. Et donc, de se séparer de sa mère, surtout, de son travail, de son pays, pour aller ailleurs dans tous les sens du mot et se construire.
Dans les poèmes, comme dans la prose, il y a une présence très très forte du tu ou du vous. On l'a entendu tout à l'heure, on l'a entendu dans les deux cas. Parfois, j'ai l'impression, moi, quand je lis, que la narratrice s'adresse à elle-même, qu'on est dans une sorte d'auto-adresse, presque d'auto-réflexion sur soi, d'auto-construction. D'autres fois, c'est l'homme aimé, d'autres fois, c'est l'ami, enfin, toutes sortes de postures qu'on peut reconnaître. Et là, je parle aussi bien des poèmes que des romans et des nouvelles. Toujours, évidemment, la présence d'un tu ou d'un vous, et particulièrement d'un vous, hein, à cause du rythme particulier que donne le vouvoiement, l'espèce de distance, de retenue, le lecteur s'investit dans ce vous-là. Alors, on dirait que ça a toujours été là, ça, parce que dans les poèmes très anciens, même dans la peau familière, on trouve ça. Pourquoi tes textes sont-ils si vite, si souvent des textes adressés?
Je n'en sais rien, parce que je dirais, d'une part, ça m'aide à écrire. La présence du tout, du tu ou du vous déclenche le mouvement de l'écriture. Mais ceci dit, pour moi, l'écriture, c'est vraiment une adresse pour briser le silence et briser la solitude. Et en ce sens-là, de me donner l'impression que je parle à quelqu'un ou que je me parle à moi en me mettant à distance est un mouvement qui me permet, en tout cas, ça instaure un mouvement qui me permet le déploiement d'une parole. Mais une bouteille à la mer dit aussi quelque chose de mon écriture. je ne sans nécessairement penser à un lecteur ou dire je m'adresse à des lecteurs ou à des lectrices, je crois que quand on écrit, il y a quand même le désir d'être entendu. Et je crois qu'on écrit pour quelqu'un, sinon on garderait ses textes dans son tiroir, puis on ne les montrerait à personne. Alors, si on les laisse aller, c'est qu'on espère que quelqu'un, quelque part, va nous lire et qu'il y aura un dialogue. Une sorte de dialogue, oui, d'une certaine façon, puisque l'autre, même silencieusement, parce qu'on ne sait pas toujours qui sont nos lecteurs, parfois on le sait et ça fait très, très plaisir, mais la plupart du temps, on ne le sait pas, il y a quelque chose qui nous revient. Alors, ce n'est pas ésotérique ce que je dis, là. Je ne crois pas aux ondes positives et à toutes sortes de choses ce soir. Mais quand même, il y a quelque chose d'une sorte de courant qui passe, en tout cas, je le crois, entre les auteurs, les lecteurs, et ces lecteurs-là, peut-être, écriront aussi quelque chose à partir de ces textes-là. Il y a une sorte de chaîne de la parole. Il faut croire, en tout cas pour moi, il faut croire à la parole parce que le problème, pour moi, c'est le silence. C'est le silence, pas le silence du recueillement, le silence du non-dit et de ce qu'on ne peut pas dire et de ce qui ne se dit pas.
Est-ce que dans cette idée qui est dans une bouteille à la mer, que quand on écrit, le retour se fait pas forcément de manière directe parce que les lecteurs te parlent, mais parce qu'eux-mêmes à leur tour peut-être écrivent. Est-ce que ton expérience de prof de création littéraire a joué, t'a confirmé ça? Qu'est-ce que ça voulait dire d'être poète, mais aussi d'enseigner la création littéraire? De faire écrire, là.
Mais ça instaure le dialogue et c'est pour ça que j'ai eu tellement peur en décidant d'arrêter d'enseigner, parce qu'on sait très bien que l'enseignement, c'est vraiment un échange avec d'autres personnes. Et il faut savoir que les étudiants nous accompagnent aussi, nous nourrissent. Comme disait un ami, il s'agit de savoir qui pédagogue, qui enseigne à qui, dans le fond. Alors, c'est vraiment un échange. Maintenant, cet échange-là, il est très, très riche. Il peut être inquiétant aussi parce que c'est un accompagnement pour un professeur de création littéraire d'accompagner des personnes qui ont un projet, qui y croient, qui veulent le mener à terme. C'est aussi une énorme responsabilité. Et cette responsabilité-là, elle est magnifique, mais elle peut devenir aussi très prenante quand on l'assume année après année. Parce qu'on est toujours au plus près des fantasmes des gens, on est toujours au plus près de leurs rêves aussi. Et il s'agit de faire entrer ces fantasmes-là dans des formes. Alors, surtout à l'université, il s'agit de faire en sorte que ces textes-là aient une valeur littéraire. Et c'est toujours le défi qui nous attend et qui attend les étudiants. Alors, même si on dit que la création ou les maîtrises en création, c'est peut-être facile, je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement difficile pour les étudiants d'abord et pour leurs accompagnateurs aussi.
Et quand l'accompagnateur est écrivain ou écrivaine, comment on fait là? Est-ce que d'être si près des rêves des autres et de devoir donner, comment on protège sa propre création? Comment on fait là pour accorder des priorités là? Ça complique pas d'un cran plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas un tour de plus dans cette relation là puisque soi-même on écrit?
Je ne l'ai jamais senti comme ça. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de délimiter la part qui m'appartient et la part qui appartient à l'autre. Et comme dans la critique littéraire, de ne pas vouloir que les étudiants fassent ce que je fais. On peut se respecter, hein? On peut me choisir comme directrice parce que je suis une professeure qui convient, sans nécessairement se sentir d'affinité avec mon travail. Et la même chose. Alors, donc, il ne faut pas reproduire, faire en sorte que le miroir s'installe et qu'il y ait des transferts. C'est ça qui est difficile en enseignement, c'est d'essayer vraiment d'établir le territoire de chacun, d'aider les autres, d'aider et de faire en sorte qu'ils trouvent, c'est ce que je veux dire par aider, mais de ne pas, qu'il n'y ait pas de fusion. Mm-hmm. Ça, c'est très malsain, je trouve.
Alors, je reviens, on a dévié un peu, je reviens à ton œuvre. Une des choses qui caractérise l'intimisme, je crois, mais je vois des spécialistes dans la salle et on aura peut-être des questions là-dessus, mais le tien en tout cas, il me semble que c'est l'attention au sensible, au concret, au palpable, au plus petit. Plusieurs exemples de ça. Dans un très beau texte qui est celui de ta réception à l'Académie des Lettres, qui a été publié ensuite dans les écrits du Canada français et que cite Anne-Marie Gézéquel très vite, dans son livre, tu dis ceci, le geste est petit, modeste, il ramène à la paume la dimension infinie du monde. Ce qui est une superbe définition, superbe programme, et où il y a beaucoup de choses qui sont caractéristiques de ce que tu fais, le petit, le modeste, la paume. Dans La Voie lactée, il y a cet épisode aussi qui est très beau, où débarrassant la chambre de la tante morte, la narratrice trouve une liste d'épiceries. Alors je te cite, carottes, pain, jambon, lait, savon, dentifrice. J'ai pris dans mes mains le petit rectangle de papier plié, j'ai voulu relire les derniers mots qui nous restaient d'Anna, les mots vrais, ceux qui disent la faim et la soif, et le désir de vaincre la mort, une journée de plus, une année, une décennie. Qui fait de la liste presque un poème. Dans La Voie lactée encore, la narratrice parle à un ami, je suis là, les gestes insignifiants, apporter un café, offrir un livre qu'on a dévoré la veille dans son lit, une plante achetée à l'entrée du métro, tous ces petits gestes qu'on apprécie que quand on a reconnu la pauvreté de la vie. Alors, j'aimerais qu'on t'entende sur le monde sensible, le concret, les choses, les objets.
Bon, d'abord, je suis une personne très concrète. Au point de départ, je ne suis pas une personne cérébrale. C'est-à-dire que, bon, vous avez peut-être l'impression que je joue sur les mots, mais non. Pour moi, tout part du concret. Et je me considère davantage comme quelqu'un qui pense, comme une intellectuelle qui pense, que comme quelqu'un qui fait des systèmes, par exemple. Bon, alors, en ce sens-là, pour moi, le réel, la réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je suis quelqu'un des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la peinture. Si j'avais une voix, j'aurais chanté, peut-être, mais hélas, je n'en ai pas. Ça a été très vite concret pour moi, là, que je ne chanterai jamais. Alors, il y a un travail qui s'est fait en ce sens-là, d'apprivoisement du réel. Et encore maintenant, c'est très important. Et je dirais que, en ce sens-là, je me sens très près des artistes visuels qui essaient de rendre ce qu'ils voient et de nous faire voir ce qu'on ne prend pas le temps de voir d'habitude. Pour moi, ça, c'est capital dans mon cheminement et dans mon écriture. Alors, quelqu'un qui lève le bras, quelqu'un qui regarde ce qu'il y a autour, quelqu'un qui essaie de voir le petit coin du mur qu'on ne regarde jamais. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qui fonde une sorte de réalité concrète, avec aussi tout ce qui se passe dans la voix, c'est-à-dire le travail du rythme, le travail des sonorités. Bref, de ramener les mots au concret du monde à la chair, quoi, au sens. Je pense que c'est le cas surtout des poètes qui vont essayer de faire en sorte que les mots deviennent concrets, qui vont lutter contre l'abstraction des mots, parce que notre outil de base est très abstrait. Alors, la force de l'écriture permet, par moment, quand on réussit, de ramener les mots au concret, la langue au concret. Et on ne sait jamais si on y arrive, mais je pense qu'on peut y travailler.
Et avec une attention au petit,
oui.
Y compris dans le corps, l'ongle, la mèche, enfin, le détail.
Oui, je suis une personne du détail, je suis une personne du petit point, du détail, des petites choses. Quand j'étais enfant, je pouvais faire des casse-têtes de 1000 morceaux. J'adorais assembler des petits morceaux. Donc, ça s'inscrit aussi dans l'écriture, ce travail-là du tout petit, de ce qu'on ne remarque pas. Et en ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose, l'écriture, qui permet ça. Si je pouvais faire une comparaison, je serais beaucoup plus près, par exemple, du travail des impressionnistes, d'accord, avec le petit pointillé et tout ça, que des personnes qui dessinent à très, très, très gros traits.
Sur cette question-là du détail, je renvoie les lecteurs de Louise au livre d'Anne-Marie Jézéquel, toute la partie sur l'espace, sur la saisie de l'espace dans ton œuvre. Le ton, le lyrisme, tu t'en es expliqué, tu en as parlé. Le fait de... moi, je dirais qu'il y a un lyrisme retenu. Il y a quelque chose de très... il y a une volonté de discrétion et de retenue. C'est le mot qui me vient le plus souvent. Est-ce que quand tu te corriges... D'abord, quand tu écris, est-ce que tu corriges beaucoup? Comment tu fais quand tu écris? Est-ce que tu corriges? Est-ce que tu biffes? Est-ce que tu en enlèves?
Je travaille très différemment la prose et la poésie. Pour la poésie, je peux avoir des dizaines de brouillons. La prose va se placer plus rapidement. Mais encore là, je vais beaucoup, beaucoup corriger le rythme, les mots, les sonorités. Pour moi, c'est très important. Et je veux arriver à la justesse du mot, à la précision. Pour moi, c'est capital. Les cours qu'on a eus quand on était à l'université nous ont influencés. Et j'ai eu dans ma vie des cours d'un grand spécialiste de Flaubert, M. Naaman, qui nous a montré le travail de Flaubert et cette exigence-là qu'il mettait et sa non-satisfaction constante, le fait de revenir sur les mots, son gueuloir. Alors, donc, tout ce travail-là m'a beaucoup influencé. Le danger, justement, de ça, c'est qu'on devienne trop perfectionniste, ce qui nous peut nous guetter. Et en ce sens-là, le sens de la retenue, ça peut aller avec le perfectionnisme aussi. Il faut savoir s'arrêter. Et la retenue, c'est toujours... Il y a une partie retenue chez moi, je ne le nie pas, ça entre dans ma personnalité. Mais en même temps, il y a tout un travail qui vise à aller chercher, disons, ce qu'il y a de plus important. Sans bavardage.
Oui,
et cette retenue-là, donc, c'est un travail aussi de la forme que j'accomplis. C'est pas seulement un travail de la discrétion.
Oui, sans bavardage, ça me paraît important, effectivement. On a l'impression que ce qui est enlevé, c'est la fioriture, le bavardage, en effet. Oui. Sur la question de l'écriture femme, de la critique au féminin, non seulement tu pratiques une écriture de la féminité, de la subjectivité femme dans tes textes, mais tu l'as théorisée, tu l'as lue chez les autres. Aujourd'hui, comment tu poserais ces questions-là? Comment tu trouves, dans ce que tu lis aujourd'hui chez les jeunes écrivaines, aussi bien poètes que romancières, novellistes, comment tu trouves quelle place ça a? Où en est-on là-dessus? Vaste question.
Oui, c'est une vaste question, mais c'est une question passionnante à laquelle je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre, parce que ce que je peux te répondre, c'est ce que je vois, par exemple, dans l'enseignement. C'est clair que ça a été une posture, une recherche d'une génération. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, je considère que j'appartiens à la deuxième génération, comme Denise Desautels, comme Louise Desjardins, comme Louise Côte-Noire. Donc, il y a eu toute une recherche de fait en ce sens-là pour savoir qui était le sujet féminin. Elle se pose cette question-là différemment aujourd'hui. Elle se pose autrement, par exemple, je crois chez Martine Audet, chez qui cette recherche-là est intégrée, mais chez qui elle ne s'énonce pas de la même façon, par exemple. Alors, je ne sais pas comment y répondre. Je pense que l'important, c'est qu'il y ait des œuvres fortes. Et que le féminin ne soit pas non plus un carcan. Je veux dire, il faut que ça vienne d'une nécessité. Si c'est un carcan qui est imposé, ça ne donne pas une œuvre qui est forte. Ça, je le crois profondément. Mais je crois que le féminin est là quand même autrement. Et qu'effectivement, chez plusieurs femmes qu'on lit aujourd'hui, on trouve ce féminin-là, on le trouve, on le lit, on le conçoit, même s'il ne s'énonce pas dans des termes, dans les mêmes termes que ce qu'on a pu lire dans les années 80, 90. Il y a une question de génération aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours l'écrivain d'une seule génération, loin de là, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recoupement. Mais moi, je suis pour une ouverture pour une permissivité qui fait en sorte qu'on puisse continuer à travailler à des projets qui nous intéressent. Mais cette question-là, elle reste quand même derrière. Je ne crois pas personnellement qu'on peut écrire en dehors de ce qu'on est. Et effectivement, la question de la sexuation, c'est une des questions les plus importantes. Bon, quand une femme est enceinte, on va demander « oui, mais tu attends un petit garçon ou une petite fille ?» On ne dit pas « tu attends un bébé ?» Qui est-ce qu'on attend ? Alors, c'est une question cruciale. Mais je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question-là au premier degré, au premier niveau.
Tu as évoqué les générations. Or, il me semble que c'est un thème par lequel qu'on retrouve beaucoup dans ton œuvre. La mère, on l'a entendu tout à l'heure, mais la maternité aussi, les gestes de la maternité, le premier recueil en est plein, la peau familière en est tout à fait tissée. Est-ce que cette question de la filiation aussi, qu'on retrouve beaucoup dans la Voie lactée, qu'on retrouve dans la Mémoria, qui dans la Mémoria, elle passe presque à travers la maison, la filiation, est-ce qu'elle t'intéresse, cette question de la filiation? Et comment tu la poserais comme femme?
Oui, c'est une question qui me passionne. C'est peut-être le thème le plus important de mon travail. Bon, je pense que pour une femme, la relation mère-fille, c'est la relation qui est au cœur de la psyché. Et parce que le lien à la mère, c'est un lien en miroir, mais c'est un lien dont il faut se dégager aussi pour faire sa propre vie. Et il se pose sans doute différemment pour les femmes de ma génération et les femmes actuellement, les jeunes femmes, peut-être, mais pas toujours. Ça dépend peut-être davantage aussi de la relation qui s'est tissée entre la mère et la fille. Et qu'est-ce qu'on laisse à nos filles, à nos enfants? C'est aussi une autre question qui me passionne, parce que c'est le lien à la mémoire. Le lien aussi à la transmission d'une histoire personnelle et d'une histoire collective. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction d'une histoire qu'on veut laisser. Je veux dire, la question qui se pose dans l'écriture, c'est quelle est la place qu'on occupe comme personne dans la société dans laquelle on vit, dans le contexte dans lequel on vit. Et pour nous, au Québec, je crois que c'est une question qui est extrêmement préoccupante, parce qu'on sait qu'on est un tout petit peuple et que notre histoire va peut-être se perdre, comme celle des Phéniciens que je prends comme métaphore dans la Voie lactée. Bien sûr, on retrouve parfois des sites phéniciens qu'on essaie d'explorer, mais on ne sait presque plus rien d'eux et il se pourrait bien qu'on ne sache plus rien des Québécois dans une ou deux ou trois générations. Je ne le souhaite pas, mais ce sont quand même des questions qu'on doit se poser, je crois.
Pour terminer, avant de passer la parole à la salle, le théâtre. Tout comme elle a été un succès, ça a été une expérience théâtrale tout à fait saisissante, toutes ces femmes sur scène. Est-ce que tu as l'intention de refaire des textes de théâtre? Le texte a paru ensuite. Est-ce que tu peux nous parler un peu, revenir un peu sur Tout comme elle, qui est aussi une histoire de transmission?
Oui, c'est une histoire sur la relation mère-fille, bien sûr. C'est une histoire... ce sont des voix. Je pense que quand on écrit pour le théâtre, c'est parce qu'on entend des voix. Alors, j'ai voulu écrire des voix de mères et des voix de filles et des mères qui parlent de leurs filles et des filles qui parlent de leurs mères. Alors, il y a eu le texte. Moi, je tenais à ce que le texte soit publié. Il l'a été. Je savais que Brigitte Henkens en ferait sa propre mise en scène, qu'elle le recréerait. Je trouvais ça très bien. Ça a été pour moi un événement déclencheur, peut-être d'une autre façon de travailler. Et dans ce projet-là, ce qui reste, c'est peut-être ça, c'est-à-dire me laisser porter par des voix. Mon rêve, et ça j'hésite à le dire parce qu'on ne sait jamais si on va réussir à le faire, ce serait un jour d'écrire un monologue pour le théâtre. Un peu comme Bernard-Marie Coltès, quand, je ne sais pas si vous avez vu La nuit juste avant les forêts. Alors, un long monologue qui serait dit par un seul comédien ou une seule comédienne. Je souhaiterais un jour avoir le souffle pour écrire quelque chose comme ça. Ça, c'est un rêve. Et puis, on sait pas, je veux dire, la création, c'est ça, c'est qu'on peut pas savoir, on peut avoir le projet. Je pense qu'il faut rester ouvert, à l'écoute, en se disant, peut-être qu'un jour, il me viendra une idée, une première phrase qui fera en sorte que tout s'enchaînera et que les autres phrases viendront et que le texte se mettra en forme. Mais quand ou comment, je n'en sais rien. Je porte en moi une sorte de désir de faire un monologue comme ça, une seule voix sur scène, quelque chose d'extrêmement dépouillé avec cette voix-là qui va comme au bout de sa folie.
Oh, belle idée. Je vais donner la parole à la salle. Je vous demanderai de poser vos questions dans le micro, tout simplement parce qu'on enregistre la rencontre. Alors, vos questions, commentaires, oui.
Tantôt, vous parliez de poésie québécoise. En fait, vous parliez du sujet féminin, comment vous conceviez durant les années 80, je crois, tout ça. Mais je me disais, moi, c'est plus une observation qu'une question. Qu'on pourrait peut-être dire que le sujet féminin dans la poésie contemporaine accorde une plus grande place à l'autre, à la voix de l'autre, comme par exemple chez Élise Turcotte ou Rosalie Lessard. Il me semble que deux voix, ou trois même parfois, dialoguent entre elles, tandis que on accordait peut-être plus de place avant justement à un seul sujet féminin.
Effectivement, il y a un travail de la forme qui se fait actuellement dans la nouvelle poésie québécoise où des voix dialoguent. On a ça chez Benoît Jutras aussi. C'est intéressant. Je trouve que votre réflexion est extrêmement intéressante. Est-ce que la poésie change? Est-ce que le sujet féminin change? Il énonce autre chose de sa génération, c'est sûr. Où cela mènera-t-il la poésie? On verra. Pour le moment, moi, je regarde, je lis, j'écoute, j'essaie de voir. Je trouve votre réflexion extrêmement intéressante, mais je veux éviter de trouver trop de voix. Chez Élise Turcotte, par exemple, je remarque quand même une sorte de douleur du sujet, du sujet féminin, qui fait en sorte que cette voix-là peut s'apparenter à des voix des décennies antérieures. Je pense pas, autrement dit, je crois pas qu'il y ait de coupure. Chez Madeleine Gagnon aussi, dans les années 70, on avait plusieurs voix. Et des voix qui se répondaient. Alors, il y a une sorte de continuité et le travail poétique fait en sorte que les écrivains doivent se renouveler constamment et partir du choc des formes pour essayer d'énoncer autrement des réalités qui sont les leurs. Mais en tout cas, je trouve votre question extrêmement intéressante. Je vais continuer à y réfléchir.
Oui, oui, Nicoletta.
En fait, j'en ai deux, si c'est possible. J'exagère. Donc, la première, ben, je reviens à... Tu as lu au début trois poèmes de Toupré. Et il y a... Je ne sais pas si c'est vraiment un vers ou un syntagme. Et le sujet parle d'un côté lisse de la nuit. Et ça m'a beaucoup accroché, ce syntagme, disons. Ce côté lisse de la nuit, à quoi renvoie-t-il? C'est encore le vide? C'est un moment d'accalmie?
Dans la poésie, ça peut être tout en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Alors, donc, ça peut être les deux, sûrement. Mais c'est clair qu'il y a un désir de sérénité. Et je dirais que toute mon écriture est en recherche d'équilibre. Et ça, Hugues Corriveau l'avait noté dans un texte dans Voix et images. Il y a vraiment un désir d'équilibre chez moi. Et bon, l'été funambule, c'est ça aussi. C'est ce désir-là de marcher sur une corde sans tomber. Alors, quand il y a beaucoup, beaucoup de noir, il faut aussi qu'il y ait du lisse par moment, pour qu'on continue à avancer. Et disons que c'est le pari que je fais. C'est le pari que je fais. Je suis pas une écrivaine du noir pour le noir qui va essayer d'ajouter du noir par-dessus le noir parce que je trouve qu'il y en a déjà suffisamment comme ça. Dans ma vie et dans la vie en général, il y a quand même chez moi cette espèce de regard-là en avant vers le lisse, vers la lumière. Et pour moi, c'est extrêmement important de développer ce regard-là. Et je m'y essaie constamment dans l'écriture. Et c'est peut-être plus évident dans la prose, parce que la prose déploie une sorte de narrativité qui permet justement de faire en sorte que on peut passer par toutes les teintes de gris. Alors que le poème étant très, très bref, souvent, ben là, on voit davantage les contrastes.
Alors là, c'est un peu encore un brouillon, mais en fait, tu as dit, si je ne me trompe pas, que tu es une personne du détail. Et moi, je trouve que oui, tu es une poète du détail, mais tu es aussi une poète de l'universel. Et j'explicite un peu, c'est que tu es le détail en tant que banal, mais banal pas dans le sens d'ordinaire, mais dans le premier sens du terme, c'est-à-dire ce qui est commun aux êtres vivants. Alors je trouve que ta poésie est toujours traversée par un souffle que du banal, du détail, s'ouvre vers l'universel. Et ces deux, et il ne s'agit jamais d'une bipolarité, d'une dichotomie, mais c'est l'un va à côté de l'autre. Donc,
Merci. Effectivement, j'essaie aussi de rejoindre l'autre et même si on est des êtres qui nous voulons uniques, il n'en reste pas moins que nous sommes très semblables les uns aux autres et que cette humanité-là qui nous fait passe souvent par des expériences communes, des sensations communes et des visions communes. Et pas, je le dis pas au sens de vulgaire, mais au sens justement de ce qui fait la part intime de ce qu'on est. Et effectivement, si on veut établir un dialogue ou un échange avec l'autre, il faut quand même qu'on croie que l'être humain qu'on a tous des points en commun et qu'on peut se rejoindre quelque part. Parce que sinon, ben, c'est... on retourne à je ne sais pas quoi, mais je veux dire, toute société est impossible, toute communauté, j'aime mieux le mot peut-être communauté que société, est impossible.
Et l'écriture aussi, donc, pour toi, pour que l'écriture soit possible, il faut ça.
Oui, l'art est impossible, la vie est impossible. Et ce qui est, je trouve, dramatique en ce moment, c'est qu'on retourne à une sorte d'individualisme où cette écoute-là de l'autre est de moins... En tout cas, on a l'impression que c'est de moins en moins possible. Et à ce que Paul Chamberlain appelle l'autisme social. Alors, je crois que s'il y a une éthique de l'art et de la littérature, c'est justement faire en sorte que cette écoute-là, ce dialogue-là, cet échange-là avec l'autre soit encore possible.
D'autres questions? Oui, allez-y.
Bonsoir, je suis une femme qui écrit et j'ai toujours eu peur d'être appréciée, premièrement parce que je suis femme et deuxièmement parce que j'écris. Et moi, j'ai opté pour une forme où le jeu... C'est un jeu à la fois femme et homme. Et je me demandais s'il n'y a pas un danger en allant vers une écriture trop marquée par notre sexe biologique.
Bon, écoutez, c'est une question extrêmement complexe. On pourrait faire un séminaire là-dessus. Et moi, je voudrais éviter ce soir de donner des balises. Je vois Sylvie Mascotte ici qui écrit très souvent avec des narrateurs masculins. Vous comprendrez, je lis son écriture et j'aime beaucoup son écriture, donc ce n'est pas pour moi une question d'affirmer nécessairement la féminité. Mais de vouloir être appréciée parce qu'on est femme, j'avoue que moi, je n'ai jamais senti de danger là-dedans, parce que quand on écrit, justement, quand on est femme, on atteint rarement à l'universel. Alors, les lecteurs ont l'impression qu'on écrit surtout pour des femmes et qu'il y a une écriture féminine qui s'adresse aux femmes, de moins en moins remarquée, mais quand même, on se rend compte que une femme qui écrit est très vite cataloguée comme femme qui écrit. Alors ça, le danger d'être appréciée parce qu'on est femme, je le vois pas vraiment. Cependant, je crois qu'il faut vraiment se laisser guider. Et je crois qu'il faut passer par un questionnement sur la féminité qu'on ne peut pas éviter. Comme personne, comme écrivaine, comme professeur, comme... parce que c'est comme passer à côté de soi. Qu'on donne n'importe quelle réponse, la réponse qui nous convient dans l'écriture, ça, je l'admets totalement, mais on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on soit un homme ou une femme. Qu'on découvre qu'à un moment donné, ce féminin-là n'est pas, peut être teinté d'une vision culturelle qui s'apparente au masculin, ça ne me fait aucun problème. Je pense qu'il s'agit de savoir comment on pose les questions. Comment on la pose, la question de la féminité? Et Françoise Colin, dans un texte, a une très, très belle expression. Comment on négocie notre féminité dans l'écriture? Je pense que, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette féminité-là dans l'écriture? Ou avec notre masculinité, si on est un homme, dans l'écriture? Ou avec le travail sur la masculinité, si on est une femme aussi? Mais on ne peut pas dire... Voilà, ça n'existe pas comme question. Et le danger, chez beaucoup de femmes que je vois, où j'ai vu ça dans l'enseignement, c'est qu'on a peur que si on est étiqueté femme, ah mon Dieu, là on est étiqueté et on va être dévalorisé d'une certaine façon. Moi, je pense que ça nous dévalorise ou non, il faut, en tout cas, moi, j'ai décidé de l'assumer. J'ai décidé de l'assumer pleinement. Et puis, voilà, l'avenir décidera. De toute façon, je serai morte. Ça ne me fera absolument rien à ce moment-là. Alors, oui, c'est possible. Bon, c'est possible. Beauvoir l'a payé. Si vous lisez, par exemple, La Gare des Michards, on dit que Sartre est un grand philosophe qui, elle écrit ses souvenirs. Il y a des jugements de valeur comme ça. Puis bon, tant pis. Moi, j'admets ça. Et puis, sans être une militante, je me dis, il faut quand même accepter qui on est. En tout cas, c'est là que je me positionne. Il faut accepter qui l'on est, puis travailler à partir de qui l'on est. Parce que de toute façon, passer à côté... Ça fait jamais, en tout cas pour moi, une écriture qui atteint à une authenticité. C'est peut-être une réponse radicale, mais voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question, ou d'autres questions, ou des commentaires? Ou... Peut-être que je demanderai à Mme Jézéquel si elle a un commentaire ou une question, puisqu'elle est l'auteur du livre qu'on va lancer tout à l'heure sur... L'écriture de Louise, je lui laisserai peut-être le dernier mot ou le premier mot de l'autre chose.
Ben justement, pour en revenir...
Dans le micro.
Voilà, pardon. Pour en revenir à votre question, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Louise, c'est, bon, ben voilà, il faut faire place à l'amour, il faut croire en l'amour. Et ça, je trouve que c'est vraiment un message extraordinaire et de l'assumer. Dire, c'est pas évident dans notre société, j'ai trouvé ça encourageant, malgré une poésie, malgré une façon d'écrire qui est quand même quelquefois douloureuse, difficile. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'une femme ose dire qu'elle aime, et puis à 50 ans, on est belle, on aime, et puis la vie continue. Ben, écoute Louise, ça c'est merveilleux. Bon, voilà, c'est un message d'espoir, et puis c'est très bien.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Je veux dire que c'est pour moi un grand honneur que Anne-Marie ait travaillé sur mon travail pendant tellement d'années. Alors, je la remercie beaucoup. Ce que je veux dire, surtout à partir de ça, c'est que je pense que écrire, c'est aussi un acte d'amour. Hein, parce que... Et tous les écrivains, même si ce sont des écrivains très noirs, vont le voir comme acte d'amour. Et c'est un acte d'espoir aussi, parce que actuellement, il y a un cynisme qui fait en sorte qu'on a tendance à être nihiliste. Et effectivement, de continuer, de travailler, d'être artiste en ce moment, quelques disciplines qu'on pratique, c'est aussi un acte d'ouverture et un acte d'espoir. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour ceux et celles actuellement qui travaillent, qui continuent à donner une vision du monde qui sorte un peu du gris du discours ambiant. Je ne nommerai personne.
Justement, je voulais rajouter, vous voyez tout de suite la générosité de Louise Dupré. Et ça, je trouve que dans toute son œuvre, il y a une générosité et une ouverture qui est assez extraordinaire.
Et comme on revient à la question de l'espoir, auquel tu donnes presque une dimension éthique, qui est dans l'écriture d'espoir, et que les artistes portent malgré tout cet espoir-là, ça nous fait, à moins que vous n'ayez d'autres remarques ou d'autres questions, une boucle pour terminer l'entretien. Veux-tu nous dire autre chose?
Je veux vous remercier d'abord, toi, Elisabeth, encore une fois, le CRILC aussi, Patrick Poirier, Marie-Claude Primo. Je veux vous remercier d'être ici ce soir, ça me touche énormément. Et puis, vous dire qu'effectivement, l'écriture, les arts, en ce moment, sont essentiels, je le crois vraiment.
Alors, merci à vous d'avoir été là, merci à la librairie Olivieri de nous accueillir et merci beaucoup à Louise pour sa générosité.